Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier vos responsables qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à ouvrir vos travaux aujourd'hui, comme chercheur, mais pas pour parler du terrorisme, je l'ai bien compris. Peut-être aussi parce que l'institution que je dirige actuellement, la Maison des sciences de l'homme à Paris, a quelque chose à voir avec votre univers, puisque nous y avons une très belle bibliothèque de recherche et que nous sommes de plus engagés dans le projet du grand équipement documentaire du campus d'Aubervilliers qui va rassembler, me dit-on, plus d'une quarantaine de bibliothèques dans un lieu qui sera, je crois, assez exceptionnel. Mais je n'ai aucune compétence dans ce domaine, je fais confiance aux bibliothécaires de mon institution et donc je ne vous parlerai pas bibliothèque. Sinon, peut-être quelques mots en conclusion. Je vais prendre le titre de vos travaux, je retirerai donc le mot « bibliothèque » et je garderai l'expression « la fabrique du citoyen ». Et je commencerai par vous dire qu'il me semble que le mot « fabrique » est très bien choisi. L'idée de citoyenneté renvoie bien plus à l'idée d'un processus qu'à quelque chose qui serait fait une fois pour toutes. Il y a une progression dans l'histoire de la citoyenneté. Et cette progression, on en trouve une formulation intéressante, très connue des spécialistes, des sociologues en particulier, qui date de 1949, d'une très célèbre conférence de Marshall, conférence dont le titre était « Citizenship and Social Class », citoyenneté et classe sociale, ce que d'une certaine façon... Ce que nous venons d'entendre nous rappelle. On ne peut pas parler de citoyenneté sans parler aussi sociale. Les canuts, ça n'est pas seulement l'un ou seulement l'autre. Et donc, que nous dit, c'est un point de départ bien sûr, que nous dit Marshall dans ce texte qui est très très célèbre. C'est un personnage à la fois historien, sociologue, économiste. Il nous dit, la citoyenneté, elle s'est construite en trois étapes. Première étape, au XVe siècle, les droits civils. Droit de l'homme et du citoyen, si vous voulez. Et donc, la liberté de penser, d'expression, ou bien encore le droit de propriété, ou bien encore le principe d'égalité des citoyens devant la justice. Ça, c'est le premier étage de la fusée, si vous voulez. Ensuite sont venus, essentiellement à partir du XIXe siècle, les droits politiques. À commencer par le droit à participer à l'exercice du pouvoir politique et donc à voter. Ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Puis le troisième étage, au XXe siècle, ce sont les droits sociaux. C'est l'État-providence. C'est le droit, par exemple, à des prestations sociales, à une redistribution qui provient de l'État. C'est le droit à l'éducation, c'est le droit à la santé. Donc voilà ce que nous proposait Marshall il y a plus d'un demi-siècle. On lui a parfois reproché de s'être arrêté là et d'une certaine façon d'avoir développé l'image d'une progression qui finalement déboucherait sur un modèle social-démocrate s'intéressant quand même avant tout aux ouvriers et à eux seuls, aux blancs, à la classe ouvrière britannique et par exemple une analyste qui ne dit rien à propos des femmes. Mais enfin, c'est une bonne base de départ, cette idée que la citoyenneté progresse, droit civil, droit politique, droits sociaux, et on l'ajouterait aujourd'hui assez volontiers, je n'en parlerai pas beaucoup, même si ça a été évoqué il y a un instant, tout ce qui touche au droit culturel, qui est une question très intéressante, dont je vais juste dire quelques mots. Ces droits culturels, qui viennent s'ajouter éventuellement aux droits sociaux, politiques et civils, posent la question suivante. Est-ce qu'ils doivent être confiés à des minorités pour qu'ils les gèrent en quelque sorte, pour qu'elles mettent en place les instances qui vont gérer ces droits, ou bien ne doivent-elles pas plutôt, ce serait ma position, être référées à des individus qui peuvent choisir ou non d'en bénéficier? C'est une chose que de pouvoir accéder à une langue, à une histoire, à des traditions, à certaines manières de rendre la justice, parce qu'on fait le choix personnel d'y accéder. C'est une autre chose que d'être soumis à ceux qui, à l'intérieur d'une collectivité plus large, maîtrisent une langue particulière, une histoire singulière, etc. Et que d'être soumis au groupe, si je peux dire, sans que cela résulte d'un choix, d'une décision personnelle. Je crois que ce sont des choses compliquées, mais qui méritent discussion, mais on peut faire des choix. Je dois vous dire que ce débat a été lancé, en fait, à la fin des années 70, pour l'essentiel, en tout cas dans la tradition philosophique. Et il a été lancé à partir d'un livre que je ne fais que citer, le livre de John Rawls, qui est très célèbre aujourd'hui, Une théorie de la justice, un livre publié en 1970-71, que nous avons mis plus de 15 ans à traduire en français. Les problèmes de la traduction sont des problèmes bien intéressants. Et un livre qui dit en gros, la justice, pour la penser, il faut se référer à l'idée qu'il y a des individus qui, si je devais prendre une expression française, doivent être libres et égaux en droit. Et il y a des gens qui ont dit, mais attention, les individus, ça n'est pas des abstractions, ce n'est pas des atomes comme ça, tous identiques, pas du tout. Chaque individu a son ancrage culturel, religieux. Et par conséquent, si on veut proposer une théorie de la justice, il faut tenir compte de ces ancrages, et donc par exemple des minorités culturelles ou religieuses auxquelles appartiennent les individus. Et donc il y a un débat qui s'est ouvert, je ne vais pas en traiter aujourd'hui, mais je crois que si nous voulons réfléchir à la citoyenneté, non seulement, comme les Camus nous y invitent, nous devons réfléchir aux dimensions sociales, aux droits sociaux, mais que nous devons réfléchir aussi aux enjeux culturels. Je crois que c'est même peut-être la grande nouveauté de notre époque. Alors, être citoyen, c'est donc bénéficier en principe d'un ensemble de droits, et cet ensemble est un ensemble qui n'est pas stable. Je crois que dans l'ensemble, on peut considérer, en tout cas dans un pays comme le nôtre, que c'est un processus en expansion. C'est un processus qui doit beaucoup à des combats politiques. Les choses ne vont jamais de soi. Et c'est un processus qui fait que des personnes, des individus vont accéder à des droits, mais que ça ne sera pas forcément tout le monde qui y accédera. Il y a toujours eu des limites, ou il y a souvent des limites à l'accès aux droits. S'il s'agit, puisqu'on vient de voir, là encore j'étais très impressionné par le rappel des Camus, enfin, puisqu'il s'agit des combats du 19e siècle, au 19e siècle, oui, on a accédé au droit de vote, enfin le scrutin a longtemps été censitaire, il fallait payer l'impôt. Donc appartenir à certains niveaux de la société. Pendant longtemps, il fallait être un homme pour voter. Vous savez qu'en France, c'est en 1944 que les femmes ont acquis le droit de vote. Et je précise, parce qu'on oublie de dire ça quand on fait cette historique, les militaires n'ont acquis le droit de vote qu'en 1945. Aujourd'hui, ça nous semble une grande banalité. Et donc, voilà le genre de limite qui existe. Tout le monde ne vote pas en France. Il faut avoir un certain âge. Il faut avoir actuellement au moins 18 ans. Depuis 1974. Avant, c'était 21 ans. Et puis, il faut être un national, il faut être un citoyen de l'État-nation, même si on peut accéder à certains droits de liés à la citoyenneté, tout en sans être forcément national. Il y a des Européens qui peuvent voter ailleurs que dans leur propre pays. Alors, ce rappel étant fait, je voudrais insister sur un premier point, qui est qu'un citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui est doté d'une qualité, qui est doté de droits, de devoirs aussi, j'y reviendrai dans un instant, ça n'est pas un individu totalement abstrait, et c'est un acteur, puisqu'on peut se faire élire, puisque l'on peut voter, par exemple. Et donc, je vais le dire dans un autre vocabulaire, un citoyen, ce n'est pas un pur sujet, au sens où, aujourd'hui, on parle de sujet, c'est-à-dire la virtualité, la possibilité de devenir un acteur. Le sujet, c'est une chose, cette virtualité de devenir un acteur, et devenir effectivement acteur en est une autre. Être sujet, avant d'être citoyen, c'est avoir une potentialité, une virtualité, mais ça ne se transformera pas forcément, facilement, concrètement, en action et donc en citoyenneté active. Au passage, vous voyez que j'utilise le mot « sujet » dans son sens actuel, qui est exactement le contraire de celui qu'il avait au moment de la Révolution, où les révolutionnaires ont dit, d'une certaine façon, « être citoyen, c'est ne plus être sujet », c'est-à-dire ne plus être assujetti au pouvoir royal. Mais aujourd'hui, quand on dit « être sujet », on a bien en tête cette idée d'une capacité d'action. J'ajoute qu'aujourd'hui, avoir cette capacité d'action, être sujet, implique que l'on reconnaisse la même capacité à autrui et que par conséquent, la définition de ce sujet susceptible de devenir citoyen introduit un principe de responsabilité et d'égalité. Je ne peux être sujet que si chacun ici peut être sujet. Ce sujet dont je vous parle, en amont en quelque sorte de la citoyenneté, va devenir citoyen en votant, en s'exprimant, en participant à une expérience d'un type ou d'un autre, en participant à la vie de la cité. Il pourra être un acteur social, il pourra participer à une grève, militer dans une association, être syndiqué, il pourra aussi participer à l'action culturelle, revendiquer des droits culturels, hein, toutes sortes de choses bien sûr. Mais il n'est pas toujours possible, ni même facile, d'être sujet citoyen. Et même en démocratie, ce qui est le cas chez nous, des obstacles importants peuvent se dresser. Ce sont tout d'abord des obstacles sociaux. Il y a des conditions sociales qui font qu'il est très difficile d'être pleinement sujet. Si vous êtes soumis au racisme, à l'exclusion sociale, à la discrimination, vous aurez le sentiment que les valeurs républicaines qui font de vous, en théorie, un sujet citoyen, ne s'appliquent pas à vous. Autrement dit, la citoyenneté est une promesse théorique, mais elle n'est pas pour vous forcément une réalité concrète. C'est ce que Karl Marx avait appelé en son temps l'universalisme abstrait. Le fait que, oui, il y a cette promesse universelle, tout le monde va être citoyen, mais que dans la réalité, les choses se passent autrement et que ça ne vaut que pour une partie de la population. Et qu'est-ce qui se passe quand on vous fait la promesse que vous êtes citoyen ou que vous allez devenir citoyen, mais qu'on ne vous donne pas les moyens de le devenir, ou vous ne les trouvez pas ou qu'ils n'existent pas? Eh bien, il peut se passer de nombreuses choses, et en particulier, il est très possible que surviennent la rage, la violence, les conduites de destruction et d'autodestruction. C'est comme ça, par exemple, que j'analyserai ce qui s'était passé en 2005, au moment des émeutes qui ont embrasé la France pendant 3 semaines. Mais il peut se passer autre chose. Ça peut être le repli sur soi, certaines formes de religiosité, certaines formes de sectarisme. Je me retire, en quelque sorte, une cité qui ne me permet pas d'être pleinement citoyen. Et donc, en démocratie, même en démocratie, la citoyenneté n'est pas parfaitement acquise. En permanence, les droits du citoyen semblent appeler extension. Mais il se passe un phénomène extrêmement important, extrêmement inquiétant, sur lequel je voudrais attirer votre attention. C'est que, de plus en plus, les démocraties peuvent donner l'image d'une sorte de tassement, de fatigue, d'affaiblissement. Et de plus en plus, on a le sentiment que, pour un certain nombre de personnes, la citoyenneté semble perdre de son sens. Ce n'est pas qu'elle est inaccessible ou qu'on ne peut pas la mettre en action, c'était le cas précédent. C'est qu'elle semble inutile, illusoire, dérisoire. Le citoyen devient désabusé, fatigué. On peut se demander si c'est de son fait ou si ce n'est pas plutôt du fait de la société plus largement. En France, et pas seulement en France, en Europe et même dans le monde, partout, des sondages montrent de façon très spectaculaire que depuis une vingtaine d'années, les partis politiques, tous partis confondus, inspirent de moins en moins confiance aux électeurs. Les citoyens s'interrogent sur l'utilité des systèmes politiques. Cela peut revêtir différentes formes, ou en tout cas se prolonger par différentes expressions. Une de ces expressions, c'est l'abstention. Dans le passé, l'abstention, c'était surtout le fait de catégories sociales plutôt marginales, peu éduquées, qui ne voyaient pas trop ce que signifiait le bulletin de vote. Aujourd'hui, l'abstention peut revêtir un sens éminemment politique. Les gens se disent déçus. Les gens trouvent que l'offre politique ne fait plus sens. Et ce phénomène de l'abstention, de la distance par rapport au système politique peut être si considérable que certains sociologues ou politologues ont parlé, pour désigner cet ensemble de problèmes, de post-démocratie. C'est-à-dire qu'ils évoquent la possibilité que nous soyons entrés dans des situations où personne ne remet en cause l'idéal démocratique, où nous sommes en démocratie. Nous avons les droits civils, nous avons les droits politiques, etc. Mais les citoyens se détournent de leurs droits, et en particulier de leurs droits politiques. Ils ne les utilisent pas. Ils laissent finalement à quelques responsables politiques, aux médias, aux instituts de sondage d'opinion, le pouvoir politique. Et donc la post-démocratie, c'est d'une certaine façon la crise, mais peut-être le déclin, qui sait, provisoire ou pas provisoire, de la représentation politique qui est quand même aujourd'hui au cœur de nos conceptions de la citoyenneté. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Eh bien, certains disent qu'il faut faire revivre autrement ou il faut faire vivre autrement la citoyenneté. Il faut recréer des formes de démocratie autres que celles qui nous ont tirés ou qui nous tirent vers ce que Colin Crouch et d'autres appellent la post-démocratie. Et c'est pourquoi, depuis 2 ou 3 dizaines d'années dans notre pays, nous entendons beaucoup parler de démocratie participative et de démocratie délibérative. Alors, est-ce que ces expériences de démocratie participative ou de démocratie délibérative, est-ce qu'elles peuvent se substituer à la représentation démocratique ? Est-ce qu'elles ne doivent pas plutôt la compléter, voire même lui insuffler un nouveau souffle ? Ce sont des belles discussions, je ne vais pas entrer dedans, bien sûr, mais je crois que ces discussions s'expliquent par cette hantise qui pourrait être la nôtre de voir la démocratie, en quelque sorte, s'essouffler et la citoyenneté devenir un principe auquel nous sommes tous attachés en théorie, mais que nous ne ferions pas vivre réellement. Dans d'autres cas, cette crise des systèmes de représentation politique débouche sur tout à fait autre chose, sur du populisme, qui peut être lui-même associé à l'idée de démocratie directe, c'est-à-dire à l'idée qu'il ne doit rien avoir entre le peuple et le pouvoir. Et que si ce populisme n'est pas au pouvoir, qu'il est dans l'opposition, cette opposition a besoin, c'est très souvent le cas pour les mouvements populistes, a besoin d'un leadership de type charismatique. Alors il existe différents types de populisme, ce n'est pas l'objet aujourd'hui d'en parler trop longuement, mais je voudrais juste signaler ceux qui me semblent les plus importants par rapport à la réflexion que nous pouvons avoir aujourd'hui sur la citoyenneté. Il y a des populismes qui sont imprégnés de nationalisme. Un spécialiste de ces questions, Pierre-André Taguieff, a parlé de national-populisme. On peut illustrer ça évidemment en France avec le Front National. Il y a des populismes qui tirent leur mode de pensée, non pas de référence à la nation, mais plutôt, si je peux dire, à des idées révolutionnaires, marxisantes, communistes, bref, qui nous déplacent plutôt du côté de l'extrême-gauche. Et puis, il y a des populismes qui sont indéterminés politiquement. Et on ne sait pas trop où les poser, ni à droite, ni à gauche. C'est le cas en Italie, me semble-t-il, avec ce qui s'est passé, avec le mouvement 5 étoiles, dirigé par Beppe Grillo. C'est intéressant, si je peux dire, même si c'est aussi inquiétant, d'examiner ce qui se passe. Dans ces populismes-là, le citoyen est appelé à se rendre aux urnes. Mais il est appelé à le faire de façon ambivalente, à la fois pour détruire encore plus le système politique en place, et donc ce sont des mouvements qui se présentent sous la forme de mouvements anti-système, et en même temps, avec l'idée de rentrer dans ce système et d'y trouver sa place. C'est très ambivalent, c'est très ambigu, si vous préférez. J'ajoute que les mouvements populistes ne sont jamais embarrassés par leurs contradictions internes. Donc ça ne les gêne pas du tout d'être à la fois anti-système et désireux de trouver une place à l'intérieur du système. Ce sont des choses assez faciles à montrer. Toujours est-il que ces mouvements aujourd'hui ont une forte dimension d'hostilité à certains aspects de la citoyenneté et en même temps de donner la parole aux citoyens ou de représenter les citoyens ou en tout cas certains d'entre eux. Ce sont des mouvements qui ont soif le plus souvent de l'égalité, qui sont respectueux du droit, de la loi et qui se veulent même de plus en plus respectables. Toute leur ambivalence, elle est là. Comment être respectueux et respectable et en même temps sulfureux ? Autre piste encore, lorsque la citoyenneté semble perdre de son sens, oui, j'en ai évoqué déjà deux, le populisme, Juste auparavant, les appels à d'autres formes de représentation politique, de démocratie politique, je veux dire. Une autre piste est explorée lorsque la citoyenneté semble à ce point exister dans un pays où le système politique a perdu son sens, qu'un certain nombre d'acteurs vont en appeler à la purge, pure et simple, du système politique. Il faut en finir avec un système politique dont on pense qu'il est allé au bout du rouleau. Et là, il y a deux voies au moins qu'il faut évoquer et distinguer. La première, c'est celle dans laquelle des acteurs vont agir de manière non citoyenne pour créer la citoyenneté. Mais le moment où l'on va purger, se débarrasser du vieux monde qui ne marche plus pour entrer dans un autre monde, est un moment de rupture, un moment révolutionnaire, si vous voulez, qui n'exclut pas la violence, pour mettre en place les conditions, ensuite, éventuellement, de la citoyenneté. Mais le moment, enfin la logique, la stratégie révolutionnaire n'est pas une stratégie qui en appelle, au moment où elle se met en place, à la citoyenneté. Et il y a une deuxième voie qui, elle, en appelle beaucoup plus, d'une certaine façon, à un idéal de citoyenneté, c'est celle qui consiste à dire nous allons mettre en place, en dessous de ce système politique qu'il s'agit de pousser à la crise extrême pour en mettre un jour peut-être un autre en place, ou peut-être de pousser à se transformer radicalement, en dessous de ce système politique, nous allons mettre en place un mouvement, des formes d'action qui pourront être sociales, culturelles, démocratiques, qui se tiendra à distance du système politique, méprisé, rejeté, qui attendra soit qu'il se décompose complètement, soit qu'il se transforme radicalement. Ce sont des mouvements, le meilleur exemple pour moi, c'est le mouvement espagnol des indignés, dans ce qu'il a de meilleur. Il y a des mouvements, mais d'une certaine façon, il y en a eu beaucoup d'autres dans le monde entier, Occupy Wall Street, il y a eu des mouvements de ce type en Israël, au Chili, où c'était d'ailleurs plutôt un mouvement étudiant. Enfin bref, le meilleur de ces mouvements, c'est une inspiration démocratique dans une situation où la représentation politique ne marche pas. Donc vous voyez que ce qu'on peut appeler les difficultés de la citoyenneté peuvent se solder par différents phénomènes. Un deuxième ensemble de remarques que je voudrais faire pour cette introduction, c'est des remarques qui tiennent au niveau auquel peut ou doit ou devrait s'exercer la citoyenneté. Classiquement, et surtout en France, surtout chez nous, nous pensons la citoyenneté dans les catégories de l'État-nation. Et nous pensons d'abord, quand nous pensons à la citoyenneté, au niveau national, et par exemple, s'il s'agit de la politique, des droits politiques, les élections présidentielles, législatives, sénatoriales, c'est un peu plus compliqué, mais enfin bon. Donc, le cadre de la citoyenneté est national, et en même temps, dans notre pays, il est évidemment local, municipal et entre les deux régional, départemental. Donc c'est comme ça que nous réfléchissons d'habitude. La citoyenneté, elle est l'appartenance à l'État-nation et à d'autres niveaux. Mais il y a trois phénomènes dont je voudrais dire quelques mots qui nous obligent à réfléchir un peu autrement. Le premier phénomène, c'est la construction européenne. Est-ce que nous sommes aussi des citoyens européens ou des citoyens européens en devenir ? C'est une question importante, elle a été formulée fréquemment, notamment il y a une quinzaine d'années par Habermas, Jürgen Habermas, ce philosophe qui plaide pour une citoyenneté européenne, et c'est un des premiers qui avait demandé à ce qu'il y ait une constitution européenne. C'est une question d'actualité pour une raison importante, c'est qu'aujourd'hui, les courants anti-européens sont devenus très puissants, et pas seulement au Royaume-Uni, ils sont très puissants également, par exemple, dans notre pays. Et qu'il y a donc ce sentiment que la citoyenneté européenne ne fait pas sens. Et en général, la critique est la suivante. Oui, bien sûr, nous pouvons voter pour le Parlement européen, donc être représentés comme citoyens au Parlement européen, mais enfin, tout ça est extrêmement loin. Et tout ça ne fait pas de nous des citoyens européens. Et la critique que l'on entend très souvent, c'est que le pouvoir de Bruxelles est un pouvoir lointain, un pouvoir technocratique, enfin un pouvoir sans lien avec les citoyens. Je crois qu'on peut aller un peu plus loin dans la réflexion sur les difficultés à construire la citoyenneté européenne. Et que si on va un peu plus loin, je ferai un détour en quelque sorte, cela va nous aider à formuler un autre problème. L'Europe, au départ, elle était destinée à empêcher le retour de la guerre. On lui a attribué un prix Nobel il n'y a pas très longtemps, on aurait dû l'attribuer, je dirais, 30 ans plus tôt. Au départ, l'Europe repose sur des valeurs éthiques ou morales, si vous préférez. La première grande réalisation concrète de l'idée européenne, c'est la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est-à-dire qu'on a dit les deux secteurs les plus centraux pour faire la guerre, c'est le charbon et c'est l'acier. Nous ne voulons plus faire la guerre, nous ne voulons plus de guerre en Europe. Organisons à l'échelle, au début de 6 pays, cette communauté, organisons donc la production, la distribution de ces deux secteurs d'activité qui sont au cœur de la guerre, le charbon, l'acier. Mais enfin, aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est en jeu. Aujourd'hui, l'Europe est surtout attendue pour sa capacité à régler des questions économiques. Elle serait beaucoup plus forte comme projet, comme capacité à faire de nous des citoyens européens, s'il y avait en plus de ça, sinon des valeurs éthiques ou morales comme celles que je viens d'évoquer, du moins des valeurs culturelles. S'il y avait la forte capacité à s'identifier à une histoire européenne, à une culture européenne. C'est une idée qui est faible en France, qui est faiblement partagée. Oui, Charlemagne, bien sûr, on peut évoquer quelques grands écrivains, bien sûr. Enfin, l'idée que l'Europe, c'est une culture, c'est une idée faible, et ceux qui ont essayé de lui donner le plus de force ont choisi un bien mauvais cheval, à mes yeux, cheval de bataille. Ils ont dit l'Europe, c'est des valeurs chrétiennes. Mais comme vous savez, au lieu que ça unifie tout le monde, l'idée de l'Europe chrétienne, c'est au contraire une idée qui clive et qui sépare ceux qui y adhèrent et ceux qui la refusent. Et donc, je crois que l'idée de citoyenneté européenne est faible parce qu'elle est en quelque sorte suspendue à la réussite économique, mais qu'elle n'est pas portée par tout ce qui fait une identité nationale, pour le dire dans un mauvais vocabulaire. Tout ce qui fait qu'une langue, une histoire, une production artistique, littéraire, etc., font le ciment d'une collectivité dans laquelle on existe. Et je fais donc un petit détour, je laisse de côté un instant l'idée européenne, pour vous dire la leçon qu'on peut tirer de cette analyse, même si elle est contestable, mais le type de raisonnement qu'on peut tirer de cette analyse. C'est qu'il me semble difficile de penser la citoyenneté sans articuler d'une manière ou d'une autre cette idée de droit et de devoir, sans l'articuler à des valeurs, à une culture, à des références, à des repères historiques. Et que, par conséquent, la citoyenneté, ça n'est pas purement et abstraitement les droits que j'ai évoqués, c'est quelque chose qui doit être pensé en liaison avec, je ne dis pas fusionné bien sûr, en liaison avec des thèmes culturels qui sont en général, en tout cas dans un pays comme le nôtre, associés à l'idée de nation. Qu'autrement dit, il ne suffit pas de choisir, je vais utiliser des choses très connues bien sûr, entre deux conceptions de la nation. On a dit parfois qu'il y avait la conception française de la nation politique. Il y a une phrase très célèbre d'Ernest Renan qui dit « La nation, c'est un plébiscite de tous les jours ». Entre une conception donc à la Renan, si vous voulez, et une conception qui consiste à dire non, la nation, c'est une culture, c'est une histoire, c'est un peuple, enfin, à la limite, c'est völkisch, une conception à l'allemande. Bien sûr, les deux conceptions sont distinctes, je ne crois pas qu'il faille les opposer, parce que je crois qu'il y a, si je peux dire, de la conception allemande dans la conception française, et de la conception française dans la conception allemande. Ce sont des thèmes qui méritent, bien sûr, des discussions qui existent. Et il me semble surtout important de dire, nous ne pouvons pas réfléchir à l'idée de citoyenneté sans nous poser la question d'un lien de cette question avec la question plus culturelle et historique de la nation. Ce qui complique évidemment la réflexion. Je retourne à mes trois phénomènes importants qui modifient, me semble-t-il, la donne pour la citoyenneté. Le premier, c'était donc la construction européenne. Le second phénomène, c'est la mondialisation. Alors, je ne vais pas vous en parler longuement parce que ça m'entraînerait trop loin. Je voudrais juste dire ceci. Que signifie être citoyen, exercer des droits, avoir des devoirs, si les principales logiques qui façonnent notre existence débordent ou dépassent l'État-nation? Si notre existence, par exemple, est surdéterminée par un capitalisme financier dont l'espace est planétaire? Et donc, si ce type de grandes questions sur lesquelles nous devons exercer notre entendement avant de prendre nos décisions comme citoyens appelle de pensée globale et pas seulement de pensée nationale. Nous sommes par exemple tous préoccupés par le changement climatique ou par l'existence de risques globaux. Nous savons tous que si une centrale nucléaire explose quelque part dans le monde, cela concerne bien au-delà du seul pays où elle aura explosé. Nous ne croyons pas un instant que le nuage de Tchernobyl se soit arrêté juste à la frontière de l'Hexagone. Mais aussi, nous avons soif de justice. Comment lutter contre l'injustice si elle relève de processus qui fonctionnent à une échelle supranationale ou transnationale? Et du coup, un vieux mot est parfois remis à l'honneur, plus d'ailleurs dans le monde anglo-saxon qu'en France. C'est le mot de cosmopolitisme. Est-ce que nous ne pourrions pas être, est-ce que nous ne devons pas être des citoyens du monde? Mais comment? Être citoyen, je l'ai dit, c'est des droits, c'est des devoirs, mais certains de ces devoirs nous conduisent à nous projeter dans le temps, à l'échelle de la planète. Comment nous comporter de manière responsable, prendre des décisions, voter pour des choses qui concernent l'humanité tout entière, nos enfants, et pas simplement notre société aujourd'hui? Comment transformer ce qui me semble être une exigence morale, éthique, là encore, en conscience, en droit, en devoir citoyen? Ça n'est pas si simple. Et donc je pense que la mondialisation ou la globalisation nous oblige à poser des nouvelles questions en tant que citoyens. Je ne suis pas sûr que le cosmopolitisme soit la réponse, mais en tout cas ça nous oblige à rentrer dans ce type de discussion. Et puis le troisième phénomène important sur lequel je voudrais insister, c'est les transformations dans les processus migratoires. Je fais exprès de dire processus migratoire ou migration. Je ne dis pas immigration. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de s'informer un tout petit peu pour avoir conscience qu'il n'y a pas que des phénomènes d'immigration. Qu'il y a des gens qui rentrent dans un pays pour le traverser et aller dans un autre pays, y compris le nôtre. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Sangatte, quand on a découvert que des migrants venus du Moyen-Orient arrivaient par une sorte d'effet d'entonnoir en face du Pas-de-Calais, voulaient aller de l'autre côté pour rejoindre peut-être ensuite les États-Unis, la Scandinavie, ou rester au Royaume-Uni, peu importe, mais ils ne pouvaient pas aller de l'autre côté. Donc l'idée d'immigration ne marchait pas, il fallait parler de transit. Nous savons aussi qu'il existe des phénomènes massifs de circulation permanente. Les gens vont et viennent, ils ne sont pas tous posés dans une société où ils vont s'intégrer, comme on dit. Les migrants sont des gens qui sont... Donc c'est pour ça que je préfère parler de phénomènes migratoires, de migrants, de migration, hein, plutôt que de immigration, comme on disait avant. Avant, on disait même « travailleurs immigrés ». L'expression, alors elle est complètement désuète, vu que les travailleurs immigrés des années 50 et 60 sont plutôt devenus des chômeurs. Donc ça a compliqué encore le débat. Et donc, ces migrants dont je vous parle, ils ont des caractéristiques nouvelles. Par exemple, ils sont bien plus qu'hier inscrits dans des réseaux virtuels, des réseaux imaginaires. Ils sont citoyens d'ici, mais peut-être aussi d'ailleurs. Et ils sont 100% citoyens ici et 100% d'ailleurs en même temps. Ils ont parfois un double lien avec la société où ils vivent et la société à laquelle ils se réfèrent. Ils sont pris dans des réseaux. Parfois, la double nationalité est une réponse, mais elle est compliquée comme réponse, parce que elle peut susciter des déchirements et puis elle peut susciter des problèmes pratiques, par exemple de service militaire ou d'appartenance à une équipe nationale dans un sport ou dans un autre. Comment être citoyen dans deux ou trois pays distincts? Et comment être pleinement citoyen dans deux ou trois pays distincts? Et donc vous voyez, migration, mondialisation et Europe, construction européenne, voilà trois défis qui rend nécessaire, si je peux dire, d'aller au-delà de nos façons classiques de penser la citoyenneté. Le sacre du citoyen, c'est le titre d'un très beau livre de Pierre-Rosan Vallon, le sacre du citoyen n'est pas remis en cause. Mais à quelles conditions aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons étendre encore la citoyenneté pour l'adapter au débat contemporain? Je pense qu'il est difficile d'avoir une réponse comme ça, bien sûr, mais qu'on peut avancer dans la réflexion en se centrant sur l'idée suivante, sur l'idée qu'être citoyen, c'est non seulement avoir des droits, mais c'est avoir le droit d'avoir des droits. C'est d'être capable d'avoir de plus en plus de droits. L'expression « le droit d'avoir des droits » est de la philosophe Hannah Arendt. Et pour y réfléchir, je pense qu'il y a un économiste qui ouvre la voie de belle manière et dont je vous recommande la lecture si vous ne l'avez pas déjà faite, c'est Amartya Sen, prix Nobel d'économie. Amartya Sen, c'est une personne, je ne sais plus s'il a gardé la nationalité indienne ou pas, enfin, qui vit dans le monde occidental entre les États-Unis et l'Angleterre, et qui est un monsieur très très intéressant. Et parmi les points qu'il a mis en avant, il a forgé un concept, en anglais, le concept de « capabilities », de capacité. Et il nous dit, ce qui est important, c'est de faire en sorte que chacun puisse développer ses capabilities, ses capacités à maîtriser son destin, à maîtriser son expérience. Et que, évidemment, pour que cela soit possible, cela implique qu'il y ait de plus en plus de ressources pour développer de telles capabilities. Donc vous voyez que la réponse, elle n'est pas politique, elle n'est pas pensée globalement, elle est pensée au niveau de chaque individu et des conditions locales, nationales, mondiales, qui peuvent aider chaque individu à se construire soi-même. Ce sont des choses très importantes. Et j'en arrive à ma conclusion. C'est évidemment parmi les ressources nécessaires pour permettre à chacun de développer ses capabilities, tout ce qui touche à l'éducation, à l'accès au savoir, à la connaissance, c'est primordial. Et c'est pourquoi je pense que ce que vous faites, ce que vous représentez, cet univers des bibliothèques, vous incarnez une clé d'entrée privilégiée dans cet accès aux capabilities. Autrement dit, à une époque où l'on parle de plus en plus de numérique, je lisais il y a quelques semaines dans un journal qu'il venait de s'ouvrir au Texas, je crois, une bibliothèque sans livres, où les gens viennent uniquement apprendre à recharger une tablette électronique, ce genre de choses. Bon, ce qui veut dire que si on allait vraiment dans ce sens, vos bibliothèques deviendraient simplement des musées, enfin des conservatoires de l'écrit. Je ne pense pas du tout que ce soit ça votre avenir. Les bibliothèques sont un lieu important de la transmission du savoir et de la pensée. Je pense que les métiers, vos métiers se transforment. Et je pense surtout que la bibliothèque est citoyenne et qu'il faut le dire de deux façons au moins différentes et complémentaires. D'une part, il me semble que les bibliothèques, l'éducation peut-être plus large, l'accès à la lecture, rendent chaque citoyen plus actif et plus conscient, que ça élève la connaissance et à partir de là, la capacité d'action et donc d'accès en particulier à la citoyenneté. Bref, pour reprendre le vocabulaire de Amartya Sen, la bibliothèque est un lieu qui contribue à forger les capabilities. Et que d'autre part, c'est la deuxième caractéristique de la bibliothèque citoyenne, à mon sens, c'est qu'elle contribue à le faire pour tous, et pas simplement pour certains. Que la bibliothèque, elle est là pour faire en sorte que, à l'intérieur de la population, chaque personne puisse développer ses capabilities. Et donc, d'une certaine façon, je retrouve ici, ce sera ma dernière phrase, je retrouve ici Marshall, que j'évoquais au tout début de cette conférence, parce que Marshall, dans son texte et dans d'autres, dans le texte que j'ai cité dans d'autres ensuite, ne se contente pas d'évoquer les droits successifs qui ont permis de forger le concept de citoyenneté. Il insiste aussi sur le fait qu'il faut, pour que ça existe, des institutions qui incarnent cette réalité, qui lui donne une chair. Eh bien, je pense que ce que vous faites, que les bibliothèques font partie de ces institutions, qu'elles apportent leur contribution à la citoyenneté dans les quatre domaines que j'ai évoqués, les trois premiers proposés par Marshall et le quatrième que j'ai ajouté. S'il s'agit des droits civils et de la capacité de les exercer, pour moi, la liberté de conscience est d'autant mieux assise que les citoyens ont accès à la lecture, qu'il s'agisse des droits politiques, on est meilleur électeur et on réfléchit davantage au processus politique de la société dans laquelle on existe, de l'Europe et peut-être du monde, là aussi, si on accède à un niveau d'éducation, de connaissances et d'information plus élevé, qu'il s'agisse des droits sociaux ou qu'il s'agisse des droits culturels. Et donc voilà, je pense qu'il y a quelques liens forts entre ce que vous faites et, de façon beaucoup plus large, les enjeux qui sont liés à l'extension ou l'expansion que nous pouvons tous souhaiter de la citoyenneté. Voilà, je vous remercie de votre patience.